c'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité à la voix.
Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver une fois encore sur votre radio pour parler de sport. Bienvenue sur Sporama. Élisée Mbati en direct avec vous ce soir. Nous allons parler du Maroc qui décline l'offre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui constitue l'avenir mais valide l'Assemblée Générale des Politiques sans conviction et qui manque de caractère. Lawal Dine Kossouro évoquera le sujet brûlant avec moi et l'ensemble de nos consultants. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
On prend la direction de Casablanca au Maroc pour retrouver Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simbo Yamba Yamba est à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique. Heureux de vous retrouver une fois de plus.
Et puis, il est de retour à Dakar au Sénégal. Lui, c'est Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Sporama ce soir, c'est aussi les interclubs de la CAF avec la quatrième journée des matchs de poule en Ligue des Champions et la deuxième journée en Coupe de la Confédération. Bienvenue à tous. Patrice Motsepe est élu président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain. Seul candidat en lice a été désigné par proclamation président de l'instance qui gère le foot en Afrique au cours de la 43e Assemblée générale de l'organisation Arabah. Premier Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste, le milliardaire succède au malgache Ahmad Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au foot. Il s'est exprimé juste après son élection.
Nous sommes très contents et confiants que les années à venir permettront au football africain de croître et de se développer et sera en compétition avec les plus grands. Cette stratégie repose en partie sur la compétitivité mondiale du football africain et sur son
and self-sustaining. Une assemblée générale qui s'est tenue en présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a œuvré pour que Motsepe soit le seul candidat en lice avec les désistements de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahia. On écoute le patron du foot mondial.
Je suis sûr que cette unité que le congrès de la CAF a démontrée aujourd'hui va faire en sorte que le football africain puisse briller encore beaucoup plus sur la scène mondiale. Il y a beaucoup de travail, le docteur Motsepe vient de le dire. Le travail commence aujourd'hui. La FIFA est là pour soutenir, pour supporter, pour aider, pour faire partie d'une équipe gagnante.
Pour relancer l'institution créée en 1957 et basée au Caire, Patrice Motsepe pourra s'appuyer sur 5 vice-présidents contre 3 sous Ahmad. Une augmentation pour assurer une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF. Alors, Amine, sans surprise, le Sud-Africain est porté à la tête de l'instance qui gère le foot africain.
Il s'agit de la concrétisation du pacte de Rabat. Il s'agit aussi des désirs de la FIFA qui ont été concrétisés. Patrice Motsepe a été élu par acclamation à 59 ans. C'est le 7e président de l'histoire de la Confédération africaine de football depuis sa fondation en 1957. Ce businessman, ce milliardaire ne connaît pas les arcanes du football comme on pourrait l'exiger d'un patron du football africain. Il a certes à son actif la gestion de Mamelodi Sundowns dont il est le propriétaire, mais c'est un homme qui a su déléguer pendant de très nombreuses années. Il va devoir se familiariser avec ses congénères des différentes associations nationales et fédérations africaines. Il va devoir respecter son plan de travail, sillonner l'Afrique, découvrir les vrais problèmes et surtout résoudre le casse-tête financier auquel est confrontée la CAF qui n'a plus de sponsor depuis très nombreuses années. Aujourd'hui, il a aussi pour mission de valoriser les compétitions africaines, en particulier la CAN, le Chan et la Champions League.
Lawal, et une fois encore, c'est en présence de Gianni Infantino que le nouveau président de la CAF a été installé, comme il y a 4 ans, à Addis Abeba en Éthiopie.
Oui, Élisée, on ne va pas reprocher à Gianni Infantino de venir assister à l'élection d'un président.
Mais il n'a pas l'habitude de le faire avec les autres confédérations.
S'il l'a fait il y a 4 ans, s'il le refait, c'est qu'il a certainement quelque chose de particulier pour l'Afrique, une affection particulière pour l'Afrique. Mais au-delà de ce qu'on dit, il faut reconnaître que son influence a toujours été négative sur le foot africain, parce que quand il est venu il y a 4 ans, on a bouté hors du système Issa Hayatou. Quand il est venu cette année, on est en train de... Oui, il en a fait les frais. Donc, on a bien l'impression que c'est lui qui téléguide tout ce qui se passe, et que c'est lui qui impose sa marque. Il a imposé sa nouvelle marque en faisant se désister les uns après les autres, tous les autres candidats, en laissant seul en lice le milliardaire sud-africain propriétaire de Mamelodi Sundowns. On espère bien que lui, qui est un inculte en matière de gestion d'une fédération, il a juste géré un club. Donc une confédération, c'est encore plus lourd à gérer. On espère qu'il va s'en sortir et qu'on va pas avoir à la fin les scandales auxquels on est habitué au sein donc de la gestion des instances fêtières du foot au plan mondial et au plan africain.
Il aura derrière lui le Mauritanien Ahmed Yahyaï, surtout le Sénégalais Augustin Senghor, son premier vice-président. Justement, Ahmedine Sy, comme signé dans le protocole, Augustin Senghor et Ahmed Yahya sont respectivement premier et deuxième vice-président. Un nouveau rôle commence pour les deux hommes, tout comme l'Ivoirien Jacques Anouma, conseiller du nouveau président de la CAF.
Tout à fait, Élisée. Concernant Augustin Senghor, ça c'est Élisée, qu'il vient d'atteindre un niveau de responsabilité jamais atteint par un Sénégalais, car il n'y a eu que Mawadou Wade qui a eu à siéger au niveau du comité exécutif. C'était vers les années 2000. Maintenant, Augustin Senghor est le premier vice-président de la Confédération africaine de football. Il faut reconnaître que Maître Augustin Senghor a eu un parcours fulgurant, hein, car il a fait son entrée au niveau de la CAF en 2019 par élection. Il a été vice-président de la commission juridique avant d'être le président de cette même commission juridique. Il a eu à intégrer le comité d'urgence qui regroupe que 5 personnes. Maintenant, il est le premier vice-président de la Confédération africaine de football, c'est-à-dire le deuxième homme fort du football africain. C'est vraiment une très bonne chose pour le Sénégal, malgré quand même le protocole de Rabat qui a été décrié par presque tous les sportifs sénégalais. Maintenant, c'est à Augustin de jouer sa partition à fond pour pouvoir quand même être, pourquoi pas, le futur président de la Confédération africaine de football. Élisée.
Lawal, bonne nouvelle aussi pour le Bénin, c'est bien Mathurin de Chacus qui sera l'un des représentants de l'Afrique au Conseil de la FIFA.
Représentant de l'Afrique au Conseil de la FIFA, oui, mais c'est pas la première fois que ce rôle revient aux Béninois. Et qu'est-ce que ça a apporté dans la gestion du foot, dans la promotion du foot béninois? Pratiquement rien, c'est vrai. C'est vrai que sous De Chacus, le Bénin, pour la première fois de son existence, a passé le cap des quarts de finale. Et peu s'en fallait, il pourrait se retrouver en demi-finale. Mais fondamentalement, c'est vrai qu'il y aura une certaine influence dans la gestion administrative au sein de la CAF. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça peut apporter de précis au Bénin quand on sait que celui dont on parle au Bénin est carrément absent sur les médias? Il n'explique jamais ce qui se passe. La dernière visite du président de la FIFA.
Il faut le dire, il est souvent coiffé par le ministre des Sports.
Et c'est bien malheureux, il n'est pas libre de ses mouvements, mais quand on sait qu'au Bénin, le ministre est super puissant et que tout ce qu'il décide est coopté par la fédération, on espère qu'on va pas en arriver là. Mais fondamentalement, je ne trouve rien qui puisse changer dans la qualité du foot béninois avec ce poste.
Voilà qui est clair. Et au même moment, Faouzi Legdia, le président de la Fédération royale de football marocain, qui n'est plus vice-président de la CAF, sera tout de même au Conseil de la FIFA. C'est une satisfaction, Amine.
Zirkja a réussi à atteindre son objectif. Il visait le Conseil mondial de la FIFA. Il a pu obtenir ce siège aux côtés de l'Égyptien Hania Bourida, qui rempile pour un deuxième mandat. Zirkja a été confronté depuis de très nombreuses semaines à l'Algérien Kherdine Zetchi. Ce dernier avait vu sa candidature invalidée dans un premier temps par la FIFA avant d'être réhabilité et remis en selle par le tribunal arbitral du sport. Mais visiblement, le candidat algérien ne bénéficie pas de suffisamment d'appui. Il a pu étudier la situation et a donc décidé de se désister. Zirkja jouit d'une expérience considérable en tant que président de la Renaissance sportive de Berkane depuis de très nombreuses années, en tant que patron du football marocain depuis 7 ans et surtout son expertise au niveau de la gestion des finances, puisque c'est un grand commis d'État, lui permettra de se familiariser rapidement avec les affaires du football mondial et d'être un digne représentant de l'Afrique, de la zone arabophone, lusophone et hispanophone de l'Afrique au sein des instances de la FIFA.
Mauvaise nouvelle aussi pour la RDC, Valdo. Constant Omari, déclaré inéligible, n'occupera finalement aucun poste.
C'est une nouvelle qui divise en deux camps les Congolais ici en RDC. Il y a ceux qui se réjouissent du fait que Constant Omari Selemani, dont le mandat à la FECOFA court encore jusqu'au mois de décembre prochain, ne soit ni à la FIFA, moins encore à la CAF, puisque disent-ils qu'ils s'enorgueillent ici. D'autres, par contre, regrettent que les choses soient passées aussi vite pour le président de la FECOFA au niveau de la CAF et de la FIFA. Ils estiment qu'il y a une sorte d'acharnement sur sa personne, ce qui pourrait avoir un effet d'entraînement au niveau de la FECOFA, puisque pas assez stable ces derniers temps. Toutefois, l'absence de Constant Omari à la CAF, les Congolais s'identifient maintenant dans le comité Motsepe au nouveau secrétaire général de la Confédération, Véron Mosengo Omba, qu'ils estiment être aussi congolais.
On reste au Maroc pour dire qu'un peu avant son Assemblée générale, la CAF a annulé la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui devrait démarrer samedi. Cette décision fait suite à la mesure prise par les autorités marocaines de fermer leur espace aérien jusqu'au 21 mars inclus pour cause du coronavirus avec une vingtaine de pays dont certains faisaient partie des qualifiés comme l'Algérie. On revient vers vous Amine, c'est un coup dur pour le tournoi.
Les considérations sanitaires ont exigé que le Royaume du Maroc ferme son espace aérien à de très nombreux pays, que ce soit sur le vieux continent ou même en Afrique du Nord. Il est vrai qu'il y a la souche britannique, la souche sud-africaine. Il était dans l'impossibilité d'organiser cette compétition, d'autant plus qu'il y a eu un cluster dans la délégation de l'Ouganda qui était supposée participer à la compétition. D'ailleurs, il y avait même un match amical qui a été arrêté à Marrakech entre l'Ouganda et la Tanzanie. Du coup, cette décision est somme toute légitime. C'est dommage pour le royaume chérifien qui rate une deuxième occasion d'organiser une compétition. Il y a eu les impératifs d'Ebola en 2015. Il y a la réalité du Covid-19 en 2021.
Valdo, et pourtant, de janvier à mars, le Cameroun a organisé le CHAN et la Mauritanie la CAN des moins de 20 ans.
Bien sûr, Élisée, que ces deux pays ont organisé ces deux compétitions, mais si le Maroc estime ne pas être à même d'abriter cette CAN de moins de 17 ans pour des raisons bien évidentes, rien à faire. En cette matière de santé, le Maroc n'aime pas prendre de gros risques. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus qu'évident que la pandémie est bien présente. Il y aurait même certains cas détectés auprès de certaines sélections. Et là, je pense que ça a été bien anticipé. Question de préserver les uns et les autres contre la Covid-19.
Et quand même, Ahmedine, malgré les variants anglais et sud-africains, le Wydad a joué à Casablanca contre les Guinéens de Oroya en Ligue des Champions.
Oui, Élisée, cette annulation est intervenue à la dernière minute. D'ailleurs, des équipes comme le Sénégal avaient déjà effectué le déplacement sur le Maroc. C'est une décision que je trouve inconcevable, car le fait d'annuler cette compétition est tout simplement sacrifier une génération éligée. C'est vraiment regrettable, c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste pour le continent africain.
Lawal, ça devrait créer un choc psychologique et émotionnel chez les enfants et les membres de leur staff technique, surtout que le tournoi a été annulé à 4 jours de son coup d'envoi.
Oui, Élisée, c'est là toute la tristesse de cette décision d'annulation de la CAF. Mais on devrait peut-être incriminer le Maroc qui, à la veille d'une compétition, demande à l'annuler. Et le Maroc a coutumier du fait, on se rappelle en 2015, ils avaient parlé de Ebola, maintenant on parle de Covid-19, alors que d'autres pays ont organisé, par exemple, le CHAN, où le Maroc a été vainqueur.
Au Cameroun,
on a organisé la CAN
des moins de 20 ans.
En Mauritanie, le Maroc est allé jusqu'en quart de finale. Et aujourd'hui, qu'on estime qu'on ferme l'espace aérien à une catégorie de pays et qu'on prétexte de ça pour annuler une compétition aussi importante, c'est dangereux. Et moi, j'estime que...
Et pourtant, le président algérien de football, Zéchi, était au Maroc.
Tous les pays dont, pour lesquels on a fermé l'espace aérien étaient pratiquement tous à l'Assemblée générale de Rabat. Donc, on ne peut pas faire les choses comme ça. Et la CAF accepte l'annulation. Mais heureusement, la Zambie a tendu la main pour l'organiser, pour que les jeunes ne puissent pas souffrir de la mauvaise foi de certains dirigeants du foot africain.
On ne peut pas sacrifier toute une génération
pour juste des sautes d'humeur d'une fédération. Je ne conçois pas que ça se passe comme ça. C'est une irresponsabilité de la fédération marocaine de football, malheureusement. Et comme on est habitué à ça, on espère que Mossepe, toute sa bande aujourd'hui vont trouver la formule pour que les jeunes puissent voir rouler le ballon, parce qu'on a mis tout un espoir dans cette catégorie d'âge. Aujourd'hui, qu'on les sacrifie de cette façon, c'est ça qui n'est pas bien, Élisée.
Merci Lawal. Alors, Amine, on est tenté de dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation sanitaire sur le continent, le Maroc rejette les compétitions qu'il prend pourtant l'engagement d'organiser. On a encore en mémoire la CAN 2015 récupérée par la Guinée équatoriale.
On ne peut pas dire que le Royaume du Maroc fuit ses responsabilités. Sachez que le Maroc a organisé de nombreux symposiums, réunions, conférences pour le football africain. Il s'est acquitté de sa tâche à Rabat en organisant, comme il se doit, ce congrès de la CAF. Mais aujourd'hui, avec le variant sud-africain, pouvoir contrôler, créer une bulle sanitaire, pouvoir réunir les 12 équipes qualifiées, pouvoir ne pas avoir de problèmes sanitaires majeurs, relever du défi, relever de l'exploit. Le Maroc n'a jamais fui ses responsabilités et ne les fuira jamais. Puisque ce n'est que partie remise et on se demande si cette CAN U17 ne va pas échoir de nouveau au Royaume du Maroc s'il en dépose la candidature, tant il dispose d'infrastructures et de savoir-faire en matière d'organisation.
Vous écoutez Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voie de l'Amérique. On prend la direction de Dakar. Alors, à Médine, on remarque que c'est une situation sanitaire à géométrie variable puisque l'AG qui devrait porter Patrice Mossepe à la tête de la CAF a été maintenu.
Tout à fait, Élisée, et c'est cela qui pose problème car non seulement l'AG s'est tenu au Maroc malgré la situation sanitaire, mais je le dis et je le répète également, le match WAC Orea s'est également déroulé au Maroc. Je pense qu'il y a des non-dits dans cette affaire. Pour moi, l'annulation de cette CAN constitue une surprise, Élisée, mais également une grande déception. Je ne peux pas comprendre quand même cette décision. C'est vrai que c'est la CAF qui a décidé d'annuler, mais c'est sur demande des Marocains, encore une fois, Élisée.
Valdo, la CAF pouvait faire amende honorable et attribuer l'organisation à la Zambie, qui en a d'ailleurs fait la demande, comme ce fut le cas en 2015 pour la CAN.
Élisée, par expérience à l'année 2015 que vous évoquez, et pour tenter de sauver si possible cette édition de la CAN de moins de 17 ans, la CAF peut bien octroyer cette organisation à la Zambie, qui est prête à faire avec les risques malgré la présence de Covid-19, mais il faudrait bien s'y rassurer d'abord et avant tout sur la santé des uns et des autres. Ne pas se précipiter d'organiser parce qu'il faut sauver cette édition. Comme il y a déjà preneur, c'est déjà une bonne chose et je pense qu'il faille minutieusement prendre des dispositions au cas où il y aurait une présence manifeste des cas de Covid-19. Qu'est-ce qui doit être pris comme décision afin que rien ne surprenne à la fois l'organisateur qui est la CAF et les pays hôtes ainsi que les pays qui vont prendre part à cette compétition.
Lawal, on n'oubliera pas de sitôt les prises de décision de cette CAF durant les 4 dernières années. On a bien touché le fond.
Oui, Élisée, la CAF sous Ahmad Ahmad a vécu les pires moments de son existence. Les volte-face se sont répétées. On espère que la nouvelle équipe va corriger les choses afin qu'on ne revienne plus. Maintenant, elle a intérêt pour cette première fois à faire organiser la CAN des moins de 17 ans.
C'est le premier défi.
Le premier défi à relever. Et s'il ne relève pas ce défi-là, autant suspendre ou autant dissoudre la CAF pour qu'on sache qu'il n'y a plus de foot en Afrique.
On a chaîne avec les interclubs de la CAF. Quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Evaldo, les deux clubs congolais jouent gros mercredi. V-Club contre le tenant du titre Al Ahly et surtout le TP Mazembe qui a besoin d'une victoire à Pretoria face au Mamelodi Sundowns.
Élisée, comme vous le dites, les deux clubs congolais jouent gros ce mardi. Mazembe, dont l'image des marques n'a jamais été face à une épreuve des rachats en Ligue des Champions de la CAF après sa première défaite en 12 ans et dans une obligation sans excuse de proposer autre chose que ce qu'a été son match aller face à Mamelodi. Avant ce face-à-face, les Corbeaux se sont bien rassurés en championnat national de la RDC avec une victoire 6-0 sur RCK, espérant que celle-ci sera de bon augure face à un adversaire qui a eu du mal à s'imposer dans son championnat respectif. De son côté, V-Club, bon voyageur, avec notamment 4 points obtenus en déplacement et face à plusieurs défis au stade des Martyrs. Trouver le chemin défilé, ce qui n'a pas encore été le cas à domicile, et aussi la victoire très attendue par ses supporters après les nuls héroïques face aux champions en titre en déplacement, le national.
Ahmedine Sy, Tungut aussi a besoin d'une victoire, même si ses chances sont minces.
Tout à fait, Élisée. Le club sénégalais qui occupe la 4e et dernière place du groupe D avec un petit point sera une nouvelle fois en quête d'exploit ce mardi face au Mouridia d'Alger. Les poulains de Youssou Dabo qui ont été battus à domicile par cette même équipe de Mouridia sur la plus petite des marques tenteront non seulement de prendre leur revanche sur cette équipe du Mouridia, mais aussi d'essayer leur premier succès de l'histoire de cette compétition qu'ils découvrent. Mais force est de reconnaître que ce sera très difficile car en face, il y aura une très belle équipe du Mouridia, une équipe expérimentée. Mais Tungut FC a bien préparé cette rencontre puisque Tungut FC a battu Niès Gorée en match de championnat. Mais il faut dire que Goré n'est pas le Mouridia d'Alger, donc ce sera extrêmement difficile pour les poulains de Youssou Dabo Élisée.
Amine Birouk, le Wydad de Casablanca, qui a réalisé un sans-faute jusqu'à présent, peut déjà valider son ticket pour les quarts de finale à Conakry face à Oroya.
Pour l'instant, le Wydad a réalisé un sans-faute. Il va devoir se déplacer à Conakry pour au moins obtenir un point face à une équipe d'Oroya qui est rodée aux joutes africaines. Et il y aura un autre obstacle à éviter, c'est l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Guinée-Conakry. Le Wydad se déplace s'est déplacé dimanche pour pouvoir s'acclimater et surtout se préparer sur place. L'équipe reste sur un match nul en championnat, mais elle est co-leader aux côtés du Raja avec un match en moins. Il y a une dynamique de confiance dans cette équipe qui pourrait lui servir dans la mesure où elle frôle quasiment un passage au quart de finale.
On reste avec vous, Amine, pour parler de la seconde Coupe des clubs, la Coupe de la Confédération, qui en sera à sa deuxième journée des matchs de poule. Et avec une entame victorieuse, la Renaissance de Berkane et le Raja de Casablanca ont l'occasion d'enchaîner.
Les deux clubs marocains engagés dans cette compétition avaient réussi leur début, poussivement certes, mais ce sont tout de même 3 points dans l'escarcelle de la Renaissance sportive de Berkane et du Raja de Casablanca. Berkane sera confronté à 13h GMT mercredi à l'équipe camerounaise de Coton Sport, qui reste sur une défaite dure à digérer en Algérie face à la JSK. L'équipe de l'Oriental risque, et tenant du titre, risque de souffrir au Cameroun, mais il y a un savoir-faire et une expérience. Quant au Raja, ça courte victoire devant Namungo n'a pas dégagé ou dissipé les doutes qui règnent sur le rendement de l'équipe depuis quelques semaines. Elle va devoir réussir un tour de force en Zambie face à Nkana Red Devils pour pouvoir faciliter ce long voyage. L'équipe a demandé à ses adhérents de contribuer pour la location d'un avion spécial. Ce sera chose faite et on verra si le Raja à 16h GMT mercredi pourra ramener quelque chose de positif de son long périple Ndola en Zambie.
Ahmedine, Djaraf, après un début raté, a l'occasion de se racheter à domicile face à un autre club tunisien, le club sorti sfacien victorieux en ouverture des Burkinabés de Salitas.
Oui, Élisée, c'est une opération rachat pour le Djaraf. Pour cette deuxième tournée, les poulains de Cheikh Gueye, qui a raté son baptême de feu, auront fort à faire car ils auront en face d'eux une grosse cylindrée, car le club sportif sfacien détient le record de trophées dans cette compétition. Donc la mission s'annonce difficile pour le club sénégalais. Mais comme nous sommes en sport et en football, tout reste possible sur un match, Élisée.
Merci à Medine et bon retour à vous à Dakar. Sporama, c'est fini. On se retrouve lundi prochain pour le même plaisir. Les programmes se poursuivent sur VOA Afrique. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Au revoir.
Les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com.